Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de votre magazine consacré aux communes du département d'Eure-et-Loir. Aujourd'hui, je suis reçu dans son bureau par le président de Chartres Métropole et maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge. Ensemble, nous allons balayer l'actualité de l'agglomération, mais aussi évoquer notre pays, la France. Jean-Pierre Gorge, vous nous direz ce que vous inspire peut-être la présidence d'Emmanuel Macron et la gouvernance de son Premier ministre Édouard Philippe. Mais tout d'abord, l'agglo avec plusieurs projets de taille en passe d'être finalisés. En premier lieu, l'élargissement de Chartres Métropole à 20 nouvelles communes. Ce sera chose faite le 1er janvier prochain. Ça fait 66 communes au lieu de 46. Et là, vous allez présider aux destinées de 140 000 habitants. C'est énorme. En région centre, c'est assez conséquent.
Non, c'est pas énorme. Parce que je pense que Bassin de Vie est à peu près 200 000. Donc là, il y a 20 communes qui ont décidé d'intégrer l'agglomération. Au moment où l'État demandait justement de réduire le nombre d'intercommunalités, elles ont choisi d'elles-mêmes. En fait, il y en avait 21, mais il y en a une pour des raisons de gêne d'une autre communauté de communes. Elle est mise en attente. Donc c'est une vingtaine de communes. Oui, ça va faire un groupe intéressant, mais qui correspond au Bassin de Vie Chartres. Oui.
Le dossier a demandé un travail préparatoire de 2 ans. Quelles ont été les principales étapes, en fait? C'est quoi la difficulté, en fait, quand d'intégrer des communes nouvelles?
Alors, ce qui est étrange, c'est que la difficulté, c'est les autres communes. On est dans un pays, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que tout le monde revendique la liberté d'administration des collectivités locales, c'est-à-dire que les gens sont maîtres chez eux. Et là, vous avez une structure qui donne un avis, une structure départementale, qui doit donner un avis sur le nouveau schéma. Et en fait, c'était les autres communes qui ne souhaitaient pas que ces communes-là, qui avaient envie de se marier avec la ville de Chartres, eh bien, rentrent dans l'agglomération. Donc, bon, c'était quand même assez ubuesque. Et donc, c'est évident que ça crée un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a des communes qui voulaient quitter leur ancienne communauté de communes et puis rentrer dans l'agglomération. Or, les motivations, peu importe. Moi, je pars du principe que une commune qui rentre dans l'agglomération, il faut qu'elle vive avec l'agglomération. Prendre des communes qui seraient très éloignées, ça n'aurait pas de sens. Et puis, il ne faut pas essayer de déstabiliser d'autres structures. En tout cas, donc, bon, il n'y a pas eu raison première réunion. Et puis, à la fin, tout le monde a bien compris que c'était l'intérêt général. Et puis, les communes se sont vraiment accrochées. Il y a quand même un esprit qui s'est construit fort entre ces 20 communes. Et je pense que ça va vraiment renforcer l'agglomération parce qu'il y a des maires qui sont très intéressants, des femmes, des hommes, qui, dans leur commune, savent gérer, savent organiser et vont nous rejoindre, et je pense que l'agglomération va être encore plus forte.
Alors, donc vous l'avez dit, ces communes se sont accrochées pour venir vous rejoindre. Qu'est-ce qu'elles vont y trouver finalement? C'est quoi les nouveaux services pour elles?
Il y a beaucoup de choses parce que vous savez, le problème de l'intercommunalité, enfin de ces exercices, c'est que vous êtes avec une population trop faible, vous n'avez pas ces phénomènes d'économie d'échelle. Vous voyez, quand vous faites des traitements de transport, d'ordures ménagères, traitement de l'eau, hein, l'eau potable, les eaux usées, et aussi du développement économique, quand vous arrivez à des tailles de 140 000 habitants, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez des masses financières qui permettent qu'à un moment donné, on peut aider sur un sujet et le régler totalement. Alors que souvent, dans les petite communauté de communes, eh bien c'est du saupoudrage, on donne un petit peu à tout le monde, et en fait ça ne construit pas grand-chose. Donc nous, on a cette puissance, bon, en plus Chartres, bon, un dynamisme économique intéressant, donc un dynamisme urbanistique intéressant, donc il y a des choses qui bougent, tout bouge en même temps, donc eh bien, forcément, ça attire, ça donne envie. Et, vous voyez, par exemple, pour les transports, ça paraît rien comme ça, mais un jeune ne paye pas les transports, donc il achète sa petite carte de 10 euros, c'est le prix de confection de la carte, et ensuite, ça lui fait faire une économie entre 250 et 300 euros par an. Dans une famille, s'il y a 2-3 enfants qui prennent les transports en commun tout de suite, eh bien, on se rapproche des 1000 euros. Vous voyez, ça, et c'est beaucoup de choses comme ça. Quand vous les mettez bout à bout, l'agglo permet aussi à des communes de bénéficier de fonds de concours. Des fonds de concours, c'est-à-dire qu'ils pourront mener des projets d'investissement parce qu'on va les accompagner jusqu'à 50% du projet. Aussi, une dotation de solidarité communautaire. Au moment où l'État retire, justement, baisse baisse un peu la dotation globale de fonctionnement pour les communes, eh bien moi j'en ai créé une nouvelle, hein, qui est autorisée par la loi, la dotation de solidarité communautaire, et on redistribue à peu près une dizaine de millions qu'on redistribue à l'ensemble des communes de l'agglomération. Donc ça leur donne une autonomie financière supplémentaire.
Je crois qu'il y a déjà un vœu de créer des projets, par exemple notamment avec Maintenon. Vous souhaitez un peu à Paris, Maintenon et Chartres pour l'offre touristique, parce qu'on voit que le tourisme se développe énormément. Il y a de gros projets, on en parlera tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Alors ça, c'était le plus gros écueil, parce qu'en fait, on faisait rentrer le château dans l'agglomération. Bon, c'est un château quand même qui est reconnu au niveau national, hein, donc et au-delà. Donc, eh bien, demain, on va pouvoir l'associer à la cathédrale et en faire des vrais produits. Donc, moi, je tiens à ce que d'abord autour du château, on aide la commune à avoir un espace un peu plus qualitatif. Vous voyez, cette place est à refaire. Il va falloir aider la commune, mais lui permettre aussi d'avoir un point touristique qui servira aussi peut-être pour gérer le château. Avec le président du conseil général, on a plein d'idées pour faire que le produit maintenant soit encore un peu mieux vu, un peu mieux regardé, et qu'on puisse même faire un triptyque Versailles maintenant Chartres. Voilà, donc des idées comme ça, oui, naturellement, ça naît, alors que dans les structures précédentes, eh ben, ça n'a jamais existé. D'ailleurs, c'est pas forcément de ses compétences, mais déjà, que le fait du conseil général qui s'occupe du château de Maintenon, déjà, on a vu la différence. Je pense qu'il y a eu un excellent travail de fait par le président du conseil général, et maintenant, si tous les deux, ensemble, on construit encore un cran au-dessus une vraie destination, je pense que ça va donner un bon résultat pour le département.
Autres bénéficiaires sont les entreprises, notamment sur le plan fiscal.
Bénéficiaires pour les entreprises, ça dépend. C'est parce que pour les entreprises qui rentrent, il va y avoir un alignement. On va le mettre sur, on va essayer de faire cet alignement sur la durée la plus longue, on va faire une dizaine d'années. Mais bon, fiscalement, c'est sûr qu'on n'a pas une pression fiscale importante, une agglomération raisonnable. Voilà. Mais l'élargissement, en fait, il amène pas beaucoup d'entreprises. Vous savez, le nombre d'entreprises sur l'agglomération là est déjà très conséquent, puisque à peu près 7000 structures qui payent l'équivalent de la taxe professionnelle. Donc voilà, les 20 communes amènent beaucoup de micro-activités.
Je crois qu'on parle des gros chantiers communautaires, ils sont assez nombreux. Enfin, il y en a deux grands, le pôle administratif Place des Halles à Chartres et puis le pôle Gare. On va faire le point sur ces deux dossiers. Le pôle administratif sera livré avec du retard, mais enfin, ça doit être pour l'année prochaine.
Oui, pas de problème, il sera livré. Bon, moi, ce que je souhaite, c'est que le guichet soit ouvert en septembre 2018. On a pris du retard parce que techniquement, c'est plus complexe qu'on le pensait. Donc, moi, je préfère qu'il y ait un peu de temps de prix, que ça soit quelque chose qui ne soit pas bancal. En fait, c'est un peu ces contraintes amenées par les réglementations, les normes. On veut que ce bâtiment soit pas un bâtiment positif parce qu'on n'y arrivera pas. Mais déjà, vous savez, pour sa climatisation, son chauffage, on va utiliser la géothermie. Donc, vous avez vu que la façade, c'est une façade avec double pot. Alors, dedans, vous avez du béton, vous avez de la ferraille, vous avez du bois, vous avez du verre, vous avez tout un mélange de produits qui vivent différemment en fonction de la chaleur. Certains se dilatent, d'autres se rétractent, donc c'est très compliqué. Et pour faire que tout ça soit bien assemblé, bien aligné, parce que vous avez vu, tout ça c'est rectiligne, c'est un beau dessin fait par l'architecte Villemotte, donc il faut être très, très précis, et ça se révèle plus complexe que prévu. Donc on va essayer de donner du temps au temps. Moi je suis plutôt pressé par les places, l'alentour, parce que en fait, cette nouvelle cité administrative va se retrouver sur une place qui ira de l'Atte de Tassigny jusqu'à Saint-Michel. Vous voyez, la rue Olin va être absorbée, la rue de la Mairie, et ça va donner un nouveau quartier, hein, avec le Crédit Agricole qui refait son siège. Au lycée Marceau, on commence les travaux bientôt, le mois prochain, pour une école du bien-être, hein, où on aura, je sais pas, 200-250 élèves, des esthéticiennes. Donc tout ça va fabriquer un nouveau quartier. Donc l'extérieur, pour moi, aujourd'hui, c'est très important. Et puis, ben, quand il le faudra, en septembre, on aura tout le personnel, dedans, à peu près 400 personnes. Et les 19 guichets qu'on a aujourd'hui, avec quelques autres d'ailleurs, se retrouveront là, en un seul lieu.
Et les habitants des 66 communes de Charleston Métropole, ils seront comme chez elles. Ça va encore drainer du monde, ça tient, dans le centre-ville.
Bien sûr, parce que tout le monde se pose des questions de vivacité des centres-villes. Ben, en faisant ça, tous ces habitants, ce centre-ville de Chartres, c'est la particularité, c'est que la ville de Chartres, le centre-ville de la ville de Chartres n'appartient pas aux Chartrains. Il appartient à un cercle bien plus large, hein, ce qu'on appelle les Chartrains, mais au sens large, parce que les habitants, vous savez, les gens qui habitent dans des communes à 10-15 km, quand ils sont en vacances sur la Côte d'Azur, quand on leur demande où ils habitent, ils ne donnent pas le nom de leur village, ils disent j'habite à Chartres. Et donc voilà, donc d'ailleurs, moi quand je vais encore un peu plus loin, j'ai tendance à dire je suis dans une ville proche de Paris, vous voyez, donc on est tous comme ça. Mais ils vivent avec ce centre-ville, donc c'est pour eux. Et cette cité administrative va faire que beaucoup de gens viendront dans l'hypercentre et on arrivera, par ce biais, on arrivera à maintenir encore un peu plus l'activité de centre-ville.
Alors, l'autre projet, c'est évidemment le pôle gare, qui est bien plus qu'un projet ferroviaire. De l'aveu de tous, c'est un nouveau quartier qui verra le jour dans les parages de la gare, un nouveau quartier avec de nouvelles habitations, de nouveaux commerces sans doute, de nouveaux services, et puis le fameux centre culturel, 4200 places je crois. Hein.
Oui, c'est un tout. Là, c'est aussi, bon, c'est 30 hectares. Oui, l'hypercentre de Chartres, c'est 80 hectares. Là, c'est 32 hectares. Donc, ils vont être réhabilités. Donc, la part de parties ferroviaires va diminuer. En fait, je suis allé visiter ce matin des reconstructions dans un endroit qu'on appelle la partie Galardon. C'est pas parce que c'est à Galardon, mais c'est l'embranchement du train qui part sur Galardon. Et donc, ça, c'est des zones techniques. On en a refait une rue du Faubourg Saint-Jean. Et donc, on enlève toutes ces activités lourdes SNCF et on va remplacer tout cela par des espaces pour faire des pôles d'activité économique. Hein. On va y faire des logements, on va y mettre un espace sportif et culturel. Donc, c'est un petit investissement de 40 millions hein, avec une jauge entre 4 et 5 000 spectateurs. Donc, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on va faire un nœud intermodal pour faire arriver les bus, les cars, les voitures, les piétons, les vélos en proximité du fer. Et puis surtout, en dessous, un grand parking d'au moins 1500 places qui permettra de faire que les gens aient moins de temps de rupture de charge entre le moment où ils arrivent à la gare, le moment où ils se retrouvent dans le train. Quoi. Et puis, en ce moment, eh bien, la SNCF est en train de refaire ses locaux. Tout ça, ça s'aménage. Donc ça avance bien. Maintenant, c'est vraiment parti. On est propriétaire de tous les terrains, toutes les zones techniques. On a, il y a quelque temps, ouvert un CLSH, un centre de loisirs sans hébergement pour toutes les agents de la SNCF. Donc, on a récupéré une école et il y a une école qui est utilisée pour ça. Donc, voilà, ce projet, pour moi, est parti. Donc, j'ai encore des problématiques de financement parce qu'il y a des transferts de compétences entre le département et la région. Donc, je cours après les sous, les paquets de millions, parce que ça, c'est un projet qui va coûter cher. Donc, mais il est financé, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune pression fiscale sur les habitants de la ville de Chartres ni de l'agglomération. Donc, mais il faut que chaque, je dirais, responsable de compétences transport paie juste proportion de ses responsabilités.
Nouvel équipement culturel, mais aussi sportif. Et là, c'est aux supporters des clubs chartrains que vous êtes que je m'adresse. Est-ce que vous comptez sur ce nouvel équipement sportif pour donner aussi un coup de fouet et puis d'avoir peut-être une très grande équipe de handball, de basket, je ne sais pas.
Bah, le problème, c'est que je voudrais l'équipe de handball avant. Hein, donc avec un peu de chance, cette année, elle s'est bien partie. Elle pourrait monter alors que l'équipement ne serait pas encore prêt. C'est vrai que quand vous avez des équipements de ce type-là, dedans, il faut des clubs qui jouent à haut niveau, sinon ça n'a plus de sens. Mais bon, on commence à avoir beaucoup d'équipes de haut niveau. Hein. On parle du hand, là, mais ou le basket, que ça soit alors féminine, qui est un niveau identique que le hand, hein, donc qui d'ailleurs qui a failli monter au top l'année dernière, mais le basket masculin est pas loin, donc tout ça, donc et puis il y a d'autres équipes qui pourraient évoluer dedans. Vous avez le tennis de table, vous avez du volley. Et le volley, moi je pense que si on veut le rendre un peu plus populaire, je trouve que c'est pas assez montré le volley. Donc ça peut aussi faire partie des activités qui sont hébergées. Puis bien sûr, il faut l'utiliser en permanence, donc y mettre de l'activité culturelle. Et puis voilà.
Alors je gardais le gros morceau pour la fin, le projet qui fait rêver là depuis quelques semaines à Chartres, c'est évidemment le parc médiéval aux portes de Chartres, dont l'objectif avoué est d'attirer, je crois, chaque année 2 millions de visiteurs. C'est à peu près cette année le niveau de d'Euro Disney à Marne-la-Vallée. Là encore, eh bien la vie des Chartrains va changer à l'horizon 2024, hein, si tout va bien.
Oui, peut-être un peu avant. Vous savez, moi je me dis entre 2022 et 2024. Ce qu'il faut, c'est que ça coïncide avec la réalisation d'ouvrages qui permettent une circulation vraiment qu'on règle la problématique d'accès à cette agglomération. Donc je pense à la 154. Il y a peut-être des endroits assez intéressants où on pourrait loger cet équipement. Donc là, c'est une ville intéressante, d'une soixantaine d'hectares, donc une ville, une cité médiévale. C'est comme si on rajoutait un village, hein, un peu à l'identique de l'hypercentre, là. Donc bon, il y a une zone technique parce qu'autour, il faut des parkings, des hôtels, un certain nombre de choses. Mais ça peut être un vrai vecteur d'activité pour tout le département. Là, c'est plus Chartres, là, c'est beaucoup plus là, parce que en fait, l'idée, bien sûr, vous disiez 2 millions de visiteurs, bon, peut-être plus. Ça, c'est l'hypothèse basse. Mais d'un autre côté, c'est surtout pour installer des circuits courts, c'est-à-dire tous ces gens qui vont venir, vont avoir des activités, vont manger, vont dépenser. Il faut que tout ça soit en relation avec les entreprises de l'Eure-et-Loire, et donc il faut qu'on invente tous ces circuits courts, que ça d'abord travaille avec l'économie locale, plutôt que, ça serait complètement idiot, qu'on fasse venir de la nourriture par avion ou par camion d'autres endroits de la France ou même de pays étrangers, quoi. Et ça n'aurait pas de sens. Donc là, l'idée, c'est vraiment rester presque chartreux chartrain, quoi. Mais bon, Aurélo, Aurélien, quoi. Donc c'est quand même un produit pour le département. Mais Chartres, c'est la ville médiévale connue en France. On peut renforcer son histoire. Et vous verrez que d'ici 2022, je ferai quelques annonces qui sont intéressantes pour les chartreins sur ce sujet. Vous voyez, j'ai encore d'autres idées.
Vous pouvez pas lever un petit coin de voile ?
Non, mais quelque chose qui permettra de patienter et qui est en relation tout à fait avec ça. Donc vous verrez, des idées, vous savez, ça manque pas.
Il y a un Perceval chez les Gorges, non ?
Vous voyez, c'est là où je suis quelqu'un qui anticipe, vous voyez, un garçon qui s'appelle Perceval. Donc quand on commence comme ça, ça veut dire qu'on a très tôt, on a des arrière-pensées, donc vous allez voir, vous verrez la suite.
Bon, il nous reste quelques petites minutes. Je voudrais quand même qu'on parle évidemment de l'actualité nationale. Alors, première question, Emmanuel Macron, c'est très bien, c'est assez bien, c'est peu mieux faire ou c'est pas bon du tout ou moyen?
Bah Macron, c'est surtout pas lisible, quoi. Donc, pour moi, je connais pas le projet de ce monsieur. Moi, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui peut me donner son plan. Et moi, quand j'écoute un certain nombre de politiques, je vois où ils veulent aller. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, ou plus ou moins d'accord. Là, c'est une somme de petites recettes qui sont de temps en temps incohérentes les unes les autres. Donc, je pense que ça peut pas aller loin, ce genre de choses. Ça, on va le voir rapidement. On va le voir rapidement. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette agressivité envers les territoires, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le contraire de ma vision. Vous savez, pour cette élection présidentielle, j'avais dit, bon, je suis candidat, j'ai essayé d'obtenir une signature, j'avais écrit un livre qui traite un peu de mon projet. Et mon projet est en opposition totale avec la démarche de M. Macron. C'est un jacobin, donc il voit les choses, il veut diriger les choses de Paris. Vous savez, quand vous commencez à enlever l'impôt local, vous commencez à enlever du pouvoir aux collectivités. Quand vous commencez à enlever des outils qui permettent, par exemple, au logement social de se construire, l'appel, les bailleurs sociaux vivent avec, sans revoir le système globalement, dans l'autre sens, eh bien, vous mettez en péril tout le travail qui est fait depuis des années par les collectivités locales qui ont soutenu le pays dans les pires des crises. Donc, cette démarche très jacobine m'inquiète énormément. Donc, alors, j'ai repris mes tribunes, je vais l'écrire de plus en plus, je vais essayer de défendre les territoires, parce que vous savez, ce week-end j'étais en Italie, là j'étais à Ravenne, et je vois la réflexion des politiques locaux, j'ai discuté avec le maire de Ravenne, un très jeune maire, là-bas, ici, ils s'organisent pour que les territoires défendent le pays. On sent bien que un peu partout, on est face à la technocratie Bruxelles où il y a des gens comme ça dans des bureaux qui écrivent des choses, définissent des normes et qui voudraient l'appliquer à tout le monde pour qu'on fonctionne tous de la même façon, quoi. Et il n'y a rien de pire que ça. Moi, je suis un Girondin convaincu. Je suis certain que le meilleur rempart pour contre la mondialisation, enfin contre ou pour accompagner la mondialisation, c'est les territoires, c'est la décentralisation, donner des responsabilités aux élus locaux. Moi, tous les jours, je fais des choix. Et vous voyez, on veut me supprimer l'impôt local, alors que je suis une ville qui, depuis, je le ferai sur 20 ans, depuis 2001, baisse ses impôts tous les ans. Et vous voyez bien, c'est pas parce qu'il y a des irresponsables quelque part qu'il faut penser que tout le monde est irresponsable. Je pense que dans certaines communes, oui, il y a des gens qui gèrent mal, qui sont irresponsables, mais pourquoi punir tout le monde? Et je pense que ça va être un boomerang terrible. Voilà.
Le monde associatif aussi est un peu inquiet, hein, par rapport à la disparition des réserves parlementaires, la disparition des contrats aidés. Vous comprenez ça, vous qui êtes très attentif au développement associatif de Chartres?
Vous savez, la réserve parlementaire, bon, ça c'est autre chose, c'était un outil pour le parlementaire pour avoir le contact avec le terrain. Aujourd'hui, je le vois bien, les députés sont perdus. De toute façon, s'ils n'ont pas un mandat local, s'ils n'ont pas des outils type réserve parlementaire, bon, bah, c'est des gens qui sont désignés par les partis, et puis quand ils sont là-haut, ils lèvent la main, parce que sinon ils se feront virer. Donc là, c'est plus le même système démocratique. Et vous savez, justement, dans cette bagarre jacobin-girondin, le fait que les députés avaient des mandats locaux, c'était le contre-pouvoir par rapport à cet état jacobin. Et ça a été cassé. Donc ça, c'était une volonté de Hollande. Macron l'a entériné, puisqu'il l'a laissé. Donc je trouve ça vraiment... pas très bien. Donc, bon, comment ça va se terminer tout ça? Parce que votre question...
C'est par rapport au milieu associatif qui est assez inquiet.
Le milieu associatif, lui, sa crainte, c'est sur... immédiatement, c'est sur les emplois aidés. Alors, moi, je pense que sa vraie crainte, elle ne sera pas là. Les emplois aidés, moi, je ne suis pas favorable de faire des emplois aidés, mais une fois qu'on a lancé quelque chose, on a mis des gens dedans, dans ces tuyaux-là, dire on arrête du jour au lendemain, vous vous rendez compte que nous, on est obligé d'appeler les gens, leur dire, mais écoutez, il n'y a plus de travail pour vous, parce que votre travail, on pouvait le maintenir, parce que, par exemple, si on prend 5 personnes, ça coûte le prix de 2 personnes, donc on dit, voilà, on en prend 5, donc on en prend 3 de plus que prévu, on crée de l'activité, les gens sont contents, mais quand on vous dit, du jour au lendemain, on ne paye plus, eh ben vous allez revenir de 5 à 2, hein, 5 à 2, et les 2, on leur demandera de faire le travail des 5. Donc, quand on fait ça, on met tout le monde dans le malheur. C'est irresponsable de faire tomber ça comme ça, brutalement. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus pour les associations, c'est que c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment qu'on réduit les dotations pour les collectivités sans donner la possibilité, la contrepartie aux collectivités de lever l'impôt, eh bien, elles ne financeront plus les associations. Moi, pour les associations, chaque année, c'est 4 millions d'euros que je donne. 4 millions. Eh bien, si un jour j'ai des difficultés budgétaires, vous pensez bien quel est le premier endroit où je vais commencer à limiter les choses. Je vais pas ne plus faire mes routes, ne plus m'occuper des services administratifs, toutes les responsabilités qu'a un maire, la police municipale. Je vais être obligé de limiter ce que je donne aux associations. Donc, le tissu associatif sera moins aidé. Alors, est-ce qu'il doit être aidé? Moi, je n'en sais rien, mais en tout cas, vous savez, c'est comme quand il y a des récessions dans les entreprises, c'est des budgets de com, de réception, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément l'utile immédiat qui disparaît. Donc, les associations vont en pâtir, bien sûr.
Une dernière question, le paysage politique français, on voit que, évidemment, les lignes ont vraiment beaucoup bougé depuis l'élection présidentielle. On a l'impression que la droite a du mal à se remettre de sa défaite et que, finalement, en face, Emmanuel Macron, il a Jean-Luc Mélenchon.
Non. En fait, c'est la partie positive de Macron, parce que moi, je critique pas tout, puisque j'avais j'ai pas du tout le même programme, mais sur la technique de nettoyage, si on peut appeler ça comme ça, j'étais assez en phase, et en fait, ça a donné une grande chasse d'eau. Regardez tous ceux qui sont partis chez les Républicains, tous ceux qui sont partis au Parti Socialiste, même le Front National, qui commence à avoir ses phases de nettoyage. Mélenchon, il se fera nettoyer, parce qu'on peut pas parler aux Français de la façon dont on dit. nulle part. Donc c'est la partie intéressante de chez Macron, c'est que ça va faire émerger d'autres générations, d'autres visions, et à ce titre-là, moi je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais quand je vois un Bérou qui rentre dans le gouvernement, qui est éjecté assez rapidement, ça me fait plaisir, tout ça, c'est usé, mais j'ai toujours vu ces gens-là faire de la politique. Vous vous rendez compte, il a mon âge, j'ai toujours vu faire de la politique, et qu'est-ce qu'il a construit, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là. Donc, si ça peut nettoyer tout ça, moi, ça me va bien. Voilà, donc, c'est pas jusqu'à présent, ça me fait plaisir. Et puis, on va voir qui va sortir du lot, qui va émerger, voilà. Non, non, ça, tout ça, c'est pas mal.
Les Républicains, Laurent Wauquiez.
Laurent Wauquiez, c'est un bon garçon, je le connais bien. Il était assis pas loin de moi à la commission des finances pendant longtemps, donc c'est un garçon que j'ai côtoyé. Donc, c'est un type assez brillant, qui a, à mon avis, un défaut, c'est un énarque, il a le défaut aussi des énarques, il est brillant, c'est un type qui a du tempérament, c'est un type qui a une vision assez claire, politiquement il affiche bien les choses. Est-ce que c'est ça l'homme politique de demain? Je suis pas sûr. Il a un bon côté, c'est qu'il est maire du Puy-en-Velay. Vous voyez, il est maire, c'est un maire. Il sait de quoi il parle. Quand j'entends Bruno Le Maire, par exemple, il a le maire que le nom, qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui vous explique comment faut faire marcher le pays. Moi, ces gens-là m'inquiètent. Alors, tous les deux ont exactement la même formation, vous voyez. Il y en a un qui a, ils sont tous les deux normaliens et élèves de l'ENA. Et puis, il y en a un qui a géré une collectivité et l'autre qui regarde ça de loin avec des pincettes. Alors, entre les deux, bien sûr, je préfère à Laurent Wauquiez. Mais je pense que les deux profils sont en danger parce que l'ENA, je pense que c'est un des cancers de la France.
Alors, le profil d'avenir, c'est quoi alors?
C'est des gars comme moi, quoi. Je plaisante. Non, moi, j'ai plus l'âge, mais des gens qui sont passés par la société civile, qui sont devenus des acteurs locaux, qui se sont investis dans le milieu associatif, qui un jour, on envoie à l'Assemblée nationale et qui montrent que partout où ils sont passés, eh bien, ils savent faire marcher plutôt que d'être dans l'idéologie, faire marcher les choses. Et je pense qu'il y a des jeunes qui se construisent comme ça. Il faut les prendre pas trop vieux parce que pour qu'ils aient encore la pêche, l'énergie, parce que c'est usant. Vous savez, tout le monde parle des indemnités des élus, mais c'est que dalle par rapport au temps passé. Donc, et là, il y en a comme ça. Regardez, moi, chez moi, dans mon équipe, j'en fabrique. Je les fabrique. Ils sont à peu près presque une génération de moins que moi. Regardez, des Maslu et des Dorange, des gens comme ça. Tout ça, ça a la pêche. Hein. Donc, Elisabeth Fromont, elle a mon âge, à peu près. On a à peu près du même âge. Donc, mais elle a la pêche aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est ça les profils intéressants. Ils ont fait dans la société civile. Ils font des choses en tant qu'élus, et ça c'est vérifié tous les jours, ils passent l'examen de l'élection, et après je pense qu'ils peuvent prétendre. Donc en France, à mon avis, il y a une multitude de gens de ce type-là.
Il faudrait fédérer, quoi.
Oui, qu'il faudrait fédérer. Alors moi j'ai essayé en créant un micro-parti qui s'appelle La France c'est vous, en disant à ces gens-là, c'est vous la France. La France, c'est pas ceux là qui tombent du ciel, là-haut. Les gens qui sont hauts fonctionnaires, inspecteurs des finances, ils vont faire pantoufler 2-3 ans dans une banque, ils prennent beaucoup d'argent au passage, on sait pas où se retrouve l'argent d'ailleurs, et puis ensuite ils viennent vous expliquer comment ça doit marcher un pays. Je crois pas trop à ça, quoi. Voilà, donc, mais ça c'est purement Jean-Pierre Gorge. Je crois à ce parcours de gens qui font la démonstration, vous voyez. Et le problème de la France, ça a commencé depuis 1974. On a quitté la France des ingénieurs pour passer à la France des technos. Et les technos, eh bien, je regrette, mais jusqu'à présent, ils ont mis le pays par terre. Voilà.
Merci Jean-Pierre Gorge.
Without my walking stick, I'd go insane. Can't look my best, I feel undressed without my cane. Must have my walking stick, 'cause it may rain when it pours. Can't be outdoors without my cane. If I ever left my house without my walking stick, that would be something I could never explain. It's the thing that makes me click on lovers' lane. Would be for naught if I was caught without my cane. left my house without my walking stick.